Chapitre 5. La mort subite de mon père, le prêtre, le purgatoire et la vache de la pauvre veuve. Le lendemain du jour qu'eut lieu l'assemblée où M. Taché avait rendu compte des motifs qu'il avait d'approuver la flagellation du curé de Saint-Thomas, j'écrivais à ma mère. « Pour l'amour de Dieu, venez me chercher. Je ne puis rester ici davantage. Si vous saviez ce que mes yeux ont vu et ce que mes oreilles ont entendu depuis quelque temps, vous ne différeriez pas un jour, pas une heure de venir. Par bonheur, le désir qu'avaient mes parents de me revoir n'était pas moins grand que le mien de retourner auprès d'eux. Aussi, au bout de quelques semaines, ma mère venait me chercher, me pressait sur son cœur et me ramenait tout joyeux dans les bras de mon père. J'arrivais à la maison paternelle le 17 juillet 1821. Je passais l'après-midi et la veillée jusqu'à une heure bien avancée de la nuit auprès de mon père. Avec quel plaisir me voyait-il résoudre des problèmes assez difficiles d'algèbre et même de géométrie. Car M. Jones, mon maître, m'avait fait faire des progrès rapides dans ses branches d'études. Je surpris plus d'une fois des larmes de joie dans les yeux de mon père lorsque, prenant l'ardoise de mes mains, il trouvait mes calculs justes. Il m'examina aussi sur la grammaire. Il répétait souvent « Quel admirable maître que ce M. Jones, pour avoir fait faire tant de progrès à un enfant !» dans le court espace de 14 mois. Qu'elles furent douces, mais courtes pour moi, ô mon Dieu, ces heures de bonheur que je passais entre ma bonne mère et mon père après une aussi longue absence. Nous fîmes la prière en famille. Je lus ensuite le 15e chapitre de l'évangile de Saint-Luc, le retour de l'enfant prodigue. Ma mère chanta un beau cantique de joie et de reconnaissance, et je me couchai, l'âme inondée de bonheur. Mon sommeil fut le plus doux de ma vie. Mais, ô grand Dieu, quel affreux réveil vous m'aviez préparé. Vers 4 heures du matin, des cris déchirants frappent mon oreille. Je reconnais la voix de ma mère. « Qu'avez-vous donc, chère mère, pour crier ainsi ?» lui demandai-je tout étonné. « Pauvre enfant, tu n'as plus de père. Il est mort. » En prononçant ces paroles, elle se jeta dans mes bras, puis elle tomba évanouie, à moitié morte, sur le plancher. Et, pendant qu'un ami qui avait couché à la maison la faisait revenir à elle-même, je m'élançai sur le lit de mon père. Je le pressais sur mon cœur, je l'embrassais, je le couvrais de mes larmes, je lui secouais la tête, je lui serrais les mains, je cherchais à le lever sur son oreiller. Je ne pouvais croire qu'il fût mort. Puis, il me semblait qu'à mes cris et à mes prières, il allait revenir à la vie. Le bon Dieu ne pouvait m'ôter ainsi mon père, à l'heure même où, après une si longue absence, je revenais auprès de lui. Je me jetais à genoux pour crier à Dieu de me rendre mon père. Mais mes larmes et mes cris furent inutiles. Il était mort. Il était déjà froid comme la glace. 2 jours après, il fut enterré. Ma mère était accablée par sa douleur. Elle ne put accompagner le cercueil à l'église. Je restai auprès d'elle comme son unique soutien sur la terre. Pauvre mère, que de larmes tu as versées, que de sanglots sont sortis de ton cœur, désolé dans ces jours de suprême douleur. Quoique bien jeune encore, j'étais assez âgé pour comprendre la grandeur de notre perte et mêler mes larmes à celles de ma mère. Quelle plume pourra jamais décrire ce qui se passe dans le cœur de la femme lorsque Dieu lui enlève ainsi soudainement son époux à la fleur de l'âge et la laisse seule, plongée dans la misère avec 3 pauvres enfants dont 2 sont trop jeunes pour savoir ce qu'ils ont perdu. Combien les heures du jour sont longues pour la pauvre veuve restée seule et sans ressources au milieu d'un peuple étranger. Combien les veilles de la nuit sont terribles pour ce cœur qui a tout perdu. Quel vide dans la famille que l'absence éternelle de celui qui en était le père et le soutien. Chaque objet que la pauvre veuve rencontre, chaque pas qu'elle fait lui rappelle sa perte et enfonce plus en avant le glaive qui perce son cœur. Oh, quelles sont amères les larmes qui coulent de ses yeux lorsque le plus jeune de ses enfants, qui ne connaît pas encore le terrible mystère de la mort, se presse sur son cœur et lui dit « Maman, où donc papa est-il allé? Pourquoi ne revient-il pas? Je m'ennuie. » Quand donc reviendra-t-il? Quel affreux et solennel silence que celui qui subit cette question, si souvent répétée par le petit pauvre orphelin. J'ai vu passer ces heures si sombres et si lentes sur l'âme de ma mère. J'ai entendu ses sanglots pendant les longues heures du jour, comme durant les heures bien plus longues encore de la nuit. Je l'ai vu, bien des fois, tomber à genoux, élever ses mains suppliant vers le ciel pour conjurer Dieu d'avoir pitié d'elle et de ses 3 malheureux orphelins. Je ne pouvais faire autre chose pour la consoler que de l'aimer, prier et pleurer avec elle. Il n'y avait que peu de jours encore que le corps de mon père avait été enseveli, lorsque je vis venir le révérend Courtois, curé de la paroisse. C'était celui qui avait cherché auparavant à nous ôter notre Bible. Il passait pour être très riche, et comme nous étions bien pauvres et bien malheureux depuis la mort de mon père, ma première pensée fut qu'il venait nous apporter des consolations et quelques secours. Je vis que ma mère partageait mon espérance. Elle le reçut comme un ange qui arriverait du ciel. Quand on est malheureux, la moindre lueur d'espérance fait tant de bien. Les premières paroles du prêtre, cependant, ne répondirent pas à l'espoir que j'avais conçu qu'il allait diminuer le poids d'affliction qui nous écrasait. Il chercha à être sympathique. Il dit même quelque chose sur la confiance que l'on doit mettre en Dieu, surtout dans les jours d'épreuve. Mais ses paroles étaient froides et sèches. S'adressant à moi, il me dit « Lis-tu encore la Bible, mon petit garçon ?»« Oui, monsieur, » lui répondis-je d'une voix qui tremblait d'inquiétude, car je craignais qu'il ne voulût encore m'ôter ce trésor et je n'avais plus mon père pour le défendre. « Madame, » dit-il en se tournant vers ma mère, « je vous ai dit que ce livre ne convient ni à vous ni à votre enfant. » Elle baissa les yeux et ne répondit que par de grosses larmes roulant sur ses joues. Cette question sans réponse fut suivie d'un assez long silence. Puis, s'adressant encore à ma mère, le prêtre lui dit « Madame, il y a quelque chose de dû pour les prières et les services que vous avez recommandés pour le repos de l'âme de votre époux. Je vous serai très obligé, si vous voulez bien, me payer cette petite somme. »« Monsieur le curé, » lui répondit ma mère, « mon mari ne m'a laissé que des dettes. Je n'ai absolument rien que le travail de mes mains pour faire vivre mes trois pauvres petits-enfants dont l'aîné est là devant vous. Si ce n'est pour moi, que ce soit par pitié pour ces petits orphelins, ne nous arrachez pas le peu qui nous reste. » « Mais madame, vous n'y pensez pas. Votre époux est mort subitement et sans préparation aucune. Il est donc certain qu'il est dans les feux du purgatoire. Et si vous voulez qu'il en sorte, il vous faut nécessairement unir vos sacrifices personnels aux prières de l'Église et aux messes que nous offrons. » « Monsieur le curé, je vous l'ai déjà dit, mon mari m'a laissé sans aucune ressource. Il m'est impossible de vous donner de l'argent. » « Considérez, madame, que votre époux a été, pendant longtemps, le seul notaire de la Malbaie, et qu'il a dû faire beaucoup d'argent. Je ne puis concevoir qu'il ne vous ait pas laissé assez pour aller à son secours, à cette heure où sa désolation et ses souffrances sont encore bien plus grandes que les vôtres. Il est vrai, monsieur le curé, que mon mari a fait beaucoup d'argent, mais il en a dépensé encore davantage. Grâce à Dieu, nous n'avons manqué de rien pendant sa vie. Mais il a fait, tout dernièrement, bâtir cette maison sur laquelle il y a encore quelque chose de dû, ce qui me fait craindre de la perdre. Puis, il a acheté, tout récemment encore, ce joli morceau de terre, qui n'est qu'à moitié payé et que je crains aussi de perdre, en sorte que je n'aurai bientôt que de grands chemins pour partage avec mes pauvres orphelins. En attendant, monsieur le curé, j'espère que vous n'êtes pas l'homme qui nous arrachera la dernière bouchée de pain qui nous reste. « Cependant, madame, il faut absolument que les messes dites soient payées, » répondit le curé. Ma mère se cacha la figure dans son mouchoir et se mit à pleurer. Mais je ne pleurai pas cette fois avec elle. Ce n'était pas de la douleur, c'était de la colère, un sentiment d'inexprimable horreur qui me possédait. Mes yeux étaient fixés sur cet homme qui torturait le cœur de ma mère et qui rendait ses larmes plus amères que jamais. Mes poings étaient fermés comme pour frapper. Tous mes muscles tremblaient, mes dents s'entrechoquaient comme si j'eusse été saisi par un froid glacial. Mon désespoir était de me trouver si faible en présence de ce gros homme et de n'être pas capable de le faire sortir de la maison pour l'éloigner de ma mère. J'avais aussi envie de lui dire « N'avez-vous pas honte, vous qui êtes si riche, de venir nous ôter le pain de la bouche ?» Mais les forces physiques et morales me manquaient également pour mettre à exécution ce que je désirais. J'en éprouvais un sentiment de regret et de désappointement qui me torturait. Après un long silence, ma mère leva sur le prêtre ses yeux rougis par les larmes et lui dit « Monsieur le curé, voyez-vous cette belle vache dans le pré, à quelques pas de la maison ? Son lait et son beurre sont la principale nourriture de mes enfants. C'est une vraie providence pour nous. J'espère que vous ne nous l'ôterez pas, mais s'il nous faut que ce sacrifice pour faire sortir l'âme de mon pauvre mari des feux du purgatoire, prenez-la pour payer les messes qu'il faut dire encore afin d'éteindre ces flammes dévorantes. » Le prêtre se leva à l'instant en disant « C'est bien, madame. » Et il sortit. Nous suivions tous ses pas. Au lieu de passer par la petite barrière qui était devant la porte, il se dirige vers la vache, dans la prairie, la frappe doucement avec sa canne, la fait avancer jusqu'à la barrière qu'il ouvre, afin de conduire sa proie sur le chemin public et de l'emmener chez lui. À cette vue, je jette un cri de désespoir. « Ah, ma mère, voilà qu'il emmène notre vache. Qu'allons-nous devenir ?» Le seigneur Narin nous avait donné cette superbe bête lorsqu'elle n'avait que 3 mois. Sa mère avait été amenée d'Écosse et appartenait aux plus belles races bovines de ce pays. Je l'avais élevée moi-même. Je la nourrissais de mes propres mains. Souvent, j'avais partagé mon pain avec elle. Je l'aimais comme un enfant aime toujours l'animal qu'il a lui-même élevé. Elle semblait me comprendre et m'aimer aussi. D'aussi loin qu'elle me voyait, elle accourait pour recevoir mes caresses avec des petites douceurs que je ne manquerais de lui donner. C'est ma mère elle-même qui la trayait. Son lait si riche était une si délicieuse et si substantielle nourriture. Comme nous nous sentions heureux lorsqu'à notre déjeuner et à notre souper, nous avions à boire une belle tasse de ce lait si pur et si frais. Ma pauvre mère jeta aussi un cri de douleur en voyant le prêtre lui ôter cette dernière ressource que le ciel lui avait laissée pour nourrir ses enfants. Me jetant dans ses bras, je lui dis « Pourquoi donc avez-vous donné notre vache? Qu'allons-nous devenir? Nous allons donc mourir de faim. » « Cher enfant, me répondit-elle, je ne pensais pas que le curé serait assez cruel pour nous arracher cette dernière ressource. Ah, si je l'eusse cru si impitoyable, jamais je ne l'aurais parlé comme je l'ai fait. Oui, cher enfant, je dirais comme toi, qu'allons-nous devenir? Mais ne m'as-tu pas souvent lu dans ta petite Bible que le bon Dieu est le père de la veuve et de l'orphelin? Nous allons le prier, ce Dieu qui veut bien être ton père et le mien. Il va nous écouter. Il va entendre la voix de nos larmes. Mettons-nous à genoux et prions-le d'avoir pitié de nous et de nous rendre la vie que ce prêtre vient de nous enlever. » Nous sommes tombés tous les deux à genoux. Ma mère prit ma main droite dans sa gauche et, levant son autre main vers le ciel, elle fit monter vers le trône du Dieu des miséricordes pour ses pauvres enfants une prière comme je n'en ai jamais entendu depuis. Ses paroles étaient souvent étouffées par ses sanglots. Mais, quand elle ne pouvait plus parler par sa voix, elle parlait par ses regards brûlants, elle parlait par sa main tendue vers le ciel. Je parlais aussi au bon Dieu avec elle et je répétais en sanglotant ses paroles. Quand elle eut fini de prier, elle resta pâle et tremblante. Je crus qu'elle allait mourir. Je courus chercher un verre d'eau bien froide que je lui donnai en lui disant « Chère maman, pour l'amour de Dieu, ne me laissez pas seule sur la terre. » Après avoir bu quelques gouttes d'eau fraîche, elle se trouva mieux. Elle prit ma main, la pressa sur ses lèvres tremblantes. Puis, m'attirant à elle, elle me pressa sur son cœur et me dit « Cher enfant, si tu es prêtre un jour, je t'en conjure, ne sois pas dur envers les pauvres veuves, comme les prêtres d'aujourd'hui. » Et, pendant qu'elle prononçait ces paroles, je sentis des larmes brûlantes couler de ses yeux sur mes joues. « Vous le savez, Seigneur, ces larmes ne se sont jamais séchées sur les joues de votre indigne serviteur. Pas un jour ne s'est écoulé sans que j'en ai senti l'empreinte ineffaçable pendant les 25 années que j'ai passées à croire et à prêcher les inconcevables superstitions de Rome. Je ne valais pas mieux que beaucoup d'autres prêtres. Comme eux, je croyais à la fable ridicule et impie du purgatoire. Comme eux, je le dis à ma honte, j'ai souvent tendu la main pour recevoir l'argent du riche qui payait mes messes, offertes pour éteindre les feux du purgatoire fabuleux. Et si ces larmes brûlantes de ma mère n'eussent pas toujours été là, sur ma joue, j'aurais été cruel, impitoyable pour la pauvre veuve, comme sont obligés de l'être tous les prêtres de Rome. Comme eux, tous, j'aurais mangé un pain trempé dans les larmes de la veuve et de l'orphelin. Mais, heureusement, lorsque mon cœur dépravé par les fausses doctrines de Rome était tenté de voler la veuve et l'orphelin, sous le prétexte de faire des longues prières, la voix de ma mère me criait du fond de sa tombe. « Cher enfant, ne sois pas dur envers les pauvres veuves, comme les prêtres d'aujourd'hui. Oui, mon Dieu, j'aime à vous en rendre gloire, à vous seul dont découlent sur nous tous les dons et toutes les grâces. Si, pendant les jours de ma prêtrise à Québec, à Beauport, à Kamouraska, j'ai donné presque tout ce que je possédais afin de nourrir et de vêtir le pauvre, surtout les veuves et les orphelins, ce n'est pas que je fusse naturellement meilleur que les autres, mais c'est que vous m'aviez parlé avec des paroles que je ne pouvais oublier. C'est vous, Seigneur, qui avez fait couler sur moi ces larmes si puissantes. C'est vous qui avez fait tomber des lèvres de ma mère ces paroles d'une simplicité incomparable, mais aussi d'une éloquence, d'une beauté sans pareille. Et ces paroles et ces larmes, la main impie de Rome n'a jamais pu les effacer. Ce n'était pas moi qui étais bon et charitable pour les veuves et les orphelins. C'était vous, Seigneur, qui étiez bon et miséricordieux pour moi, lorsque l'ange que vous m'avez donné pour guide mes premiers pas dans la vie écrivez dans mon âme avec mes larmes ces admirables leçons. À vous donc, Seigneur, et à vous seul, la gloire, les louanges et les adorations de la terre et du ciel. Mais combien de temps encore, ô mon Dieu, laisserez-vous cette insolente ennemie de votre évangile, l'Église romaine, s'engraisser des larmes de la veuve et des pleurs de l'orphelin au moyen de cette invention cruelle et impie des peuples idolâtres, le purgatoire? Ayez donc pitié de tant de nations qui sont encore les victimes de cette grande imposture. Arrachez le bandeau qui couvre les yeux des prêtres et des peuples de Rome et les empêche de voir la lumière comme vous l'avez arraché de mes propres yeux. Faites-leur donc comprendre que ce n'est pas vers les feux d'un purgatoire imaginaire que le pauvre pécheur doit tourner ses regards et ses espérances afin d'être sauvé, mais que c'est uniquement dans le sang de l'agneau, immolé pour effacer les péchés du monde, que les âmes des coupables enfants d'Adam peuvent être purifiées pour le temps et pour l'éternité.